tous et bienvenue autour de votre grande table. Écologie, environnement, réchauffement climatique, écosystème. Pourquoi la technologie ne nous sauvera pas? Pourquoi faut-il quitter les techno-utopies rapidement? Invité l'ingénieur Philippe Biwix, auteur de Le bonheur était pour demain, qui paraît au seuil. Il sera avec nous à partir de 12h55 après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, la Dolce Vita d'Enrique Mazzola, le chef d'orchestre franco-italien, directeur de l'Orchestre National d'Île-de-France jusqu'à la fin de cette saison, nous rejoint pour la première partie de l'émission à l'occasion d'un concert Dolce Vita qu'il donnera à la Philharmonie de Paris le 22 mai prochain et de la sortie d'un disque, Gustav Mahler, Anton Bruckner. Il est avec nous jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Jesbert.
Avant de retrouver et d'écouter notre invité Enrique Mazzola, que je salue néanmoins, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Une petite parenthèse cannoise, vous êtes cinéphile vous, Enrique Mazzola?
Oui.
Et ben c'est Antoine Guillot qui est en ce moment à Cannes et qui va nous raconter tous les jours les coulisses de son festival en direct de Cannes. Nous le retrouverons pour 3 émissions entières, lundi, mardi et mercredi prochain. D'ici là, bonjour Antoine.
Bonjour Olivia.
Hier, le festival de Cannes a déroulé son tapis rouge et donné le coup d'envoi de cette 72e édition avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Ce que révèle ce moment de l'inconscient du cinéma français. Allez hop, tout le monde sur le divan.
Cléopâtre, je vous idolâtre.
Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Je suis une maison vide sans toi, sans toi.
C'est moi ou il y avait quelque chose quand même de franchement très funèbre dans cette cérémonie d'ouverture censée lancer dans la joie la décade des festivités cannoises. Tout a commencé avec un double hommage à Agnès Varda, disparue fin mars. On vient d'entendre, on l'entend encore dans un fondu enchaîné qui coulait la télévision dans le cinéma, la reprise par la jeune Angèle, succédant à Michel Legrand et Karine Marchand de la très très magnifique chanson « Sans toi » de Cléo de 5 à 7. Un moment émouvant, beau, un moment télévisuel, très beau, enfin très émouvant si ce n'était cette caméra tout à fait obscène qui cherchait par des gros plans obstinés à capter l'émotion sur le visage des enfants de la cinéaste Rosalie Varda et Mathieu Demy sur le mode. Alors elle vient, cette larme, sans toi donc, comme chante Angèle, sans qui, sans spectateur, pourrait-on commencer le cauchemar du cinéaste et qu'il n'y ait personne dans la salle, a dit au début de la cérémonie Agnès Varda dans un extrait de son dernier film, Varda par Agnès, et le maître de cérémonie Édouard Baird, se demandant à partir de combien de billets vendus un film est un échec ou un succès, dégrener le compte à rebours de la disparition du spectateur des salles. Le cinéma, c'est la salle de cinéma. Être ensemble, sortir de chez soi, proclamait-il ensuite. Le collectif, le groupe, la chaleur humaine, ce n'est pas manger des pizzas chez soi devant Netflix. Alors je ne sais pas ce qu'Edouard Baird a contre les pizzas, mais c'était assez cocasse venant d'une cérémonie produite par un groupe audiovisuel, Canal+, pour le nommer, qui, avant sa zombification récente, a construit en grande partie sa fortune sur la diffusion exclusive sur petit écran de films de cinéma. Mais sans doute que les abonnés de Canal ne mangent pas de pizza, eux. Pas de Netflix cette année, encore à Cannes donc, après avoir laissé passer le Roma d'Alfonso Cuarón, qui fit ensuite les belles heures du Festival de Venise et le succès que l'on sait aux Oscars. On fera donc sans Martin Scorsese et le très attendu The Irishman, on dira qu'il n'était pas prêt. Le président du jury, Alejandro González Iñárritu, en a lui-même rajouté sur le sentiment funèbre. Le montage de tous ces films, censé le célébrer, commencé par les fameux 21 grammes qu'on perd en mourant. En voyant tous mes films, j'ai l'impression qu'il y a une fatigue de vivre, réagissait-il ensuite, définissant le cinéma comme certes ce qui peut changer nos vies, mais aussi nous consoler quand nous sommes tristes et déprimés. Il ne manquait plus que le retour d'Edouard Baird, se demandant en référence au titre The Dead Don't Die, soit Les Morts ne meurent pas de Jim Jarmusch, dont il venait de prononcer un très embarrassant éloge décousu au piano, s'il ne vaut pas mieux être mort que vivant, comme ça on ne peut pas mourir, pour jeter une ultime pelletée de terre sur cette 72e édition à peine naissante, lui donnant l'image d'un festival mort-vivant, se mettant en scène comme une forteresse des morts assiégée. Il n'y a qu'un seul juge, le temps. Blanc, concluait Iñárritu, relativisant l'importance de son jury. On se donne rendez-vous dans 10 jours pour voir si l'éros des films présentés aura su contrebalancer le Thanatos de la soirée d'hier soir.
Et tac, merci beaucoup Antoine Guy. En attendant, vous restez. On vous retrouve déjà demain pour faire un premier retour sur cette première journée. Diffusion, projection hier donc du film de l'américain Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, à suivre ce soir, aujourd'hui, en séance officielle.
Alors aujourd'hui, nous avons le film, premier film de Ladj Ly, Les Misérables, et puis un film formidable d'un Brésilien qu'on aime beaucoup, Kleber Filho Mendonça, qui s'appelle Bacurau.
Antoine Guillot, le journal de Cannes, est à retrouver sur franceculture.fr.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Italien né en Espagne, il a acquis récemment la nationalité française. Cocorico, Enrique Mazzola dirige l'Orchestre National d'Île-de-France depuis 2012, tout en multipliant les collaborations. Premier chef invité du Deutsche Oper Berlin, vous dirigez en ce moment l'Orchestre Philharmonique aussi de Zurich, puis vous serez à Salzbourg cet été. Partout où vous irez, Enrique Mazzola, vous prendrez la nationalité?
Peut-être, mais je pense qu'après 3 passeports, c'est un peu trop. Hein. Mais pour l'instant, je suis... Alors, c'est la première fois que la radio, quelqu'un me dit que je suis un chef d'orchestre franco-italien. Ça se sent très bien.
C'est vrai,
en italien, mais c'est italo-francese, hein, naturellement. Uh-huh. Et par contre, j'ai rien, moi aussi, j'ai rien contre les pizzas. Hein.
Rien, non, oui, oui. Mais vous êtes plutôt salle ou vous êtes plutôt télé pour regarder des films? Vous êtes plutôt Netflix ou quand même?
Alors, télé, c'est plus facile parce qu'avec le rythme de vie, si je rentre chez moi très tard, à 23h comme ça, et je regarde quelque chose pour avoir le cinéma. Alors, le cinéma, c'est beau parce qu'il y a le rituel du cinéma, comme il y a le rituel du concert et le rituel de l'opéra. Donc, le spectacle... entre guillemets vivant, parce que le cinéma est vivant jusqu'à quand nous allons à le voir. Mais pour des raisons toutes pratiques, je suis un petit peu plus télé que cinéma, sincèrement.
Ouais. Alors on déplore souvent dans ces grands festivals l'absence des compositeurs de musique de film, et pourtant la musique tient un rôle très important à l'écran aussi. C'est un genre que vous affectionnez, la musique de film?
Oui, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi imaginer la musique de film dans le concert de musique classique. C'est une musique très, très aimée par le public d'aujourd'hui, et il faut jamais oublier que la musique de film, c'est de la musique contemporaine, hein, à propos de ce que fait peur la musique contemporaine, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, on peut commencer, par exemple, avec la musique d'aujourd'hui, de film, pour comprendre les sentiments, l'expressivité de la musique d'aujourd'hui.
Comprendre votre orchestre, vous le quitterez dans quelques semaines, et ça, nous, on comprend toujours pas pourquoi. Non, sans avoir bouclé quand même cette dernière saison et enregistré un dernier album avec les musiciens de l'Orchestre National d'Île-de-France. Cet album, Malheur Bruckner, avec le baryton Marcus Verba. Mais d'abord, il vous faudra refermer le festival Dolce Vita avec un concert à la Philharmonie de Paris le 22 mai prochain. Dolce Vita, c'est un art de vivre que des compositeurs italiens ou étrangers, mais amoureux de Rome, ont su traduire en musique pour vous, Enrique Mazzola.
Oui, oui. La Dolce Vita, c'est une sorte de... comment je peux dire, hein? En anglais, c'est slow life, une vie à vitesse...
lente, plus...
Oui, réduite, non? Et en fait, j'avais un peu oublié qu'il existe encore. Il y a une semaine, j'étais pour un documentaire sur Rigoletto dans la ville de Mantova, que c'est une petite ville italienne, très magnifique, très belle. Et je suis allé là pour 24 heures et j'étais vraiment plongé dans la Dolce Vita italienne. Donc ça passe presque rien. Il y a les gens qui prennent le café, l'espresso, le petit espresso, tranquillement, qui parlent. Le manger, c'est incroyable. Le soleil qui couche, la beauté à chaque angle de la ville. Ça, c'est la Dolce Vita. Et oui, Respighi, par exemple, à travers de ses portraits de la ville de Rome, a, si vous voulez, tracé un paysage sonore de la Dolce Vita. Et on le retrouve dans Fontane di Roma et dans Pini di Roma, oui.
Ottorino Respighi, qu'on retrouvera dans le programme de cette soirée à la Philharmonie avec Puccini et avec Rachmaninoff. pour une rhapsodie sur un thème de Paganini. Alors juste un mot sur ce Respighi qui est un peu moins connu que les autres quand même. Vous allez parcourir avec lui la ville de Rome, de ses fontaines jusqu'aux pins. On va écouter un extrait sous la direction de Daniele Gatti, que vous connaissez bien, les pins de la Villa Borghese. Sur ce compositeur, quelques mots, Enrique Mazzola. Là, il y a tout cet esprit de Dolce Vita que vous évoquiez. On n'est pourtant pas dans la lenteur, on est quand même dans une espèce de joie qui emporte aussi. Hein.
Oui, mais ce portrait-là, c'est par exemple un portrait d'une Rome très vif, avec des enfants qui jouent dans la rue, le la, 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 qui chantent un peu avec des chansons enfantines comme ça. Mais après, ça change. Ça fait aussi partie des couleurs de la Dolce Vita, les enfants qui jouent dans la rue. Alors, Respighi, c'est un compositeur qui veut colorer, c'est un peu le cinéma à propos de ça. Donc, une image de Rome, on imagine tout de suite le soleil, les enfants qui courent dans une place au centre-ville. Il y a beaucoup de bruit, on entend beaucoup de bruit au début. Et c'est vraiment cette idée de faire image avec la musique. Et il y a plein naturellement de Stravinsky, il y a plein de Richard Strauss, il y a plein de toutes les belles influences de début de 20e siècle sont là. Cher Respighi, avec naturellement une signature en touche d'italianité.
Et parmi les deux poèmes symphoniques que vous reprendrez ce soir-là, il y a les fontaines de Rome de Respighi. Alors ça aussi, c'est un élément central de la géographie de cette capitale italienne. Les fontaines, quatre fleuves, Neptune ou encore Trevi, ça c'est la Dolce Vita de Fellini plutôt. Si on vous demandait de mettre votre main à vous, Enrique Mazzola, dans la Bocca della Verità, la bouche de la vérité de l'église Santa Maria, et voir pour voir si vous dites vrai, pourquoi vous le quittez, cet orchestre national d'Île-de-France?
Je la quitte parce que j'ai eu déjà deux mandats, donc j'ai travaillé 7 ans avec cette formation formidable, donc l'orchestre veut trouver un futur différent. Moi aussi j'ai des autres projets, donc c'est encore un tout petit peu pour parler de mes projets, ma prochaine destination. Si vous voulez, on se retrouve en septembre et je pourrai ne parler librement.
Alors, sans donner de nom ou destination, de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait vous enrichir, vous apporter avec le parcours que vous avez déjà là? Quelque chose de complètement différent ou vous voulez vous inscrire dans une forme de continuité par rapport au travail que vous avez fait?
Non, moi, je pense que la continuité, c'est le chemin plus juste, je veux dire. Je dirige beaucoup de répertoires symphoniques, je dirige beaucoup d'opéras aussi, donc je vais continuer mes collaborations avec les grands théâtres où je dirige normalement maintenant, donc le Met à New York, le Lyric à Chicago, Vienne, Glyndebourne, Zurich. Hier soir, j'ai dirigé à l'Opéra de Zurich. Et naturellement, je vais continuer la collaboration avec Berlin, avec tout notre cycle Meyerbeer, avec beaucoup d'idées, surtout sur l'opéra français. Donc oui, je veux continuer comme ça, plus quelques surprises, il y aura des surprises, oui.
La Dolce Vita, ce programme que vous conclurez donc à la Philharmonie de Paris le 22 mai, il y aura du Puccini avec un prélude symphonique, il y aura du Rachmaninov. Que vient-il faire dans cette sélection italienne? Pourquoi Rachmaninov et pas de Rossini, de Donizetti ou encore moins de Vivaldi?
Non, mais avant tout, il y a Paganini. Voilà, donc l'italianité de thème de Paganini qui entre dans, dans l'idée de notre série. Alors, c'est vrai que l'image de Paganini, c'est pas du tout l'image de quelqu'un qui va prendre son cappuccino tranquillement, hein. Peut-être c'est plus trop diabolique. Mais voilà, je voulais mettre un petit peu de pépé, comme je peux dire.
De poivre.
De
piment.
De piment aussi dans notre programme. Sinon, ça devient. Parce que aussi, le prélude symphonique du Puccino, c'est vraiment Dolce Vita. Hein. On est là, il y a des accélérandi, des rallentandi, donc c'est vraiment très tranquille, un petit peu passionnant, et après, il retourne dans la tranquillité.
Et pour ça, il vous fallait au piano un virtuose, Alexander Gavriliuk.
Les aptitudes techniques sont certainement l'outil le plus utile pour arriver au sommet de la musique. Je pense qu'un virtuose, un musicien, est un performeur qui sert la musique et non lui-même. On peut discuter en menu détail de toutes les étapes pour parvenir à cette fin. Mais je pense que c'est principalement un mélange de sincérité et d'altruisme sur scène et un dévouement envers le public. L'accomplissement d'une expérience spirituelle spéciale, presque comme une forme de diplomatie.
Comme Alexander Gavriliuk, vous diriez, vous, Enrique Mazzola, que les capacités, les aptitudes techniques, c'est certes important au piano ou à la direction d'orchestre, mais le plus important, c'est le partage, la diplomatie, l'altruisme. Quel sens vous donnez à ces mots?
C'est un discours difficile. Alors, on vient tous d'une école plutôt dur ou l'autorité, c'est qui donne le là au travail
la rigueur
de musiciennes. Notre génération, c'est vrai, c'est une génération qui refuse cette aptitude et qui pense que partager les idées plutôt que être emprisonné dans sa propre idée, c'est la façon meilleure de faire musique. Alors, je suis d'accord avec Alexander, ça c'est un peu aussi ma façon de travailler. Je préfère toujours partager mes idées quand je répète avec l'orchestre et j'ai vraiment une idée très forte. Je préfère parler à l'orchestre et dire « Alors, mon idée, c'est ça. » Et je le dis parce que je veux que on partage la même idée de dolcezza, la même idée de eccitation, le même voilà, c'est vraiment une idée dans une façon de travailler. Et naturellement, quand je travaille avec une caste de chanteurs sur scène, c'est très important de fixer c'est quoi Rossini, qu'est-ce que je veux de l'opéra de Rossini, le tempo, la pulsation de tempo, la vitesse, l'arrivée à l'excès, voilà.
Vous avez été élevé à la baguette, votre génération, c'est ce que vous avez l'air d'évoquer, Enrique Mazzola, d'abord au piano et au violon comme instrumentiste, oui. Puis comme petit chanteur à la Scala de Milan, dirigé à ce moment-là par Claudio Abbado. Vous avez eu le sentiment d'avoir été guidé par beaucoup d'autorités. On n'apprenait pas à votre génération d'enfants, musiciens, à libérer ce qu'il pouvait y avoir de plus subjectif en eux?
Je trouve que oui, la génération précédente ne laissait beaucoup d'espace aux musiciennes, je trouve. Et donc c'est aussi une réaction. Le fils musicien veut toujours faire le contraire du père. Alors mon père qui était un coach vocal, il me disait alors la tradition d'un Rigoletto c'est comme ça. Et naturellement j'ai grandi pensant que toute la tradition de Rigoletto c'est pas juste. Il faut vérifier, aller sur la partition et offrir quelque chose de différent au public. Mais ça, c'est, je pense, dans toutes les générations, c'est la réaction à quelque chose qui est toujours le même. Donc, c'est la réaction d'offrir quelque chose de différent.
Et aujourd'hui, on ne connaît pas votre âge, ça c'est vous le cachez. Mais aujourd'hui, vous êtes toujours dans la réaction, vous, Enrique Mazzola.
Ah oui, ça c'est incroyable. Moi, je suis resté comme quand j'avais 20 ans. J'ai trouvé en général un chef d'orchestre plutôt différent, particulier. Je pense les orchestres, les chanteurs qui travaillent avec moi, ils savent déjà que je vais chercher des difficultés. Je suis jamais dans le easy way, dans la facilité. Je cherche toujours. Et ça, c'est fois, c'est un problème, hein, mais je cherche toujours la plus difficile. Je n'essaye pas d'éviter la difficulté. J'y vais. C'est chaque fois mon Himalaya. Voilà.
Et la difficulté là, pour ce disque que vous avez enregistré, c'était de rapprocher deux compositeurs autrichiens que l'on dit diamétralement opposés. Vous parvenez pourtant à les associer, extrait d'une des pièces de Mahler, d'un des leaders de Gustav Mahler, les chants d'un compagnon errant que vous avez dirigé avec l'Orchestre National d'Île-de-France et le baryton Markus Verba. Wenn mein Schatz Hochzeit macht, qu'on m'a bien aimé, aura ses noces. Bruckner, Mahler, une même tradition viennoise, mais des écritures, diriez-vous, Enrique Mazzola, orchestrales, complètement différentes ?
Oui, un peu c'est vrai, même si j'ai pas pensé, quand j'ai construit le CD, de chercher de rapprocher forcément de compositeurs qui sont effectivement différents. C'est plutôt, c'est une idée un peu dramaturgique, d'avoir un premier mouvement, que sont les Lieder eines fahrenden Gesellen. Après, il y a un entr'acte, qui c'est une sorte de boule avec ce incroyable jeune Bruckner pour rentrer acte 2 avec Knaben Wunderhorn. Donc, c'est plutôt
de
une Mahler, construction.
Comme un opéra. Mahler, en fait.
Voilà. Ouais. C'est plutôt une construction d'opéra que je voulais mettre comme structure dans ce CD sans chercher sans forcer une unité de style. Mais alors, j'étais fasciné par ce jeune Bruckner on entend déjà tout le symphonisme qui va à construire le futur, mais dans ces quatre pièces, on entend un Bruckner qui fait une sorte de Schubert très romantique, très tard romantique. Il y a une tendresse énorme dans ces quatre pièces.
Oui, sur le morceau qu'on vient d'entendre, il y a des paroles très sautillantes. Ah, que le monde est beau, cuicui, ne chantez pas, ne fleurissez pas, pour un chant où il est pourtant question de séparation. On évoquait la Dolce Vita italienne au début de cet entretien avec vous. Là, on est dans le tempérament viennois qui est beaucoup plus ambigu, beaucoup plus contrasté qu'on l'imagine.
Oui, c'est ça. Alors, travaillant beaucoup, par exemple, les deux capitales, Berlin et Vienne, je trouve que l'esprit viennois a une certaine légèreté toute, si je peux dire, latine. C'est beaucoup plus à sud, et même s'il y a toujours le thème de l'amour, de l'abandon, de la recherche de quelque chose, il y a aussi une certaine humeur qui, des fois, est difficile à trouver en Allemagne.
Comme Mahler, qui a commencé par des leaders avant d'attaquer la symphonie, vous commencez souvent, vous, Enrique Mazzola, tout plutôt petit avant de voir grand. Vous commencez concert avant d'enregistrer. Il y a une forme d'humilité, voire de sagesse à avancer par étapes, et on sent que c'est aussi la vôtre. Alors comment donner envie, parce que c'est au cœur de la démarche de l'Orchestre National d'Île-de-France que vous dirigez actuellement. Je vous propose d'écouter les mots de l'architecte Renzo Piano, qui a pensé notamment l'annexe de l'Art Institute de Chicago ou encore, bien sûr, le Centre Pompidou.
J'ai dit tout le temps aux jeunes, et essayez, puisqu'il y a un moment dans lequel vous serez vous-même surpris, vous faites quelque chose, vous la regardez dans les mains, vous dites, tiens, c'est moi qui ai fait ça. Et cette surprise, c'est quand même la découverte d'une vie créative. Et c'est aussi la découverte que la créativité est contagieuse. Le seul moyen pour être créatif, c'est de partager la créativité avec d'autres. Le travail d'équipe, c'est pas une façon de dire, c'est comme ça. Il faut travailler avec des autres. Il faut jouer le ping-pong avec les autres, rapidement. Donner pour prendre, rapidement. Et je crois que l'invention vient de ça. Je crois que, et surtout en architecture, mais je crois pratiquement dans toutes sortes de disciplines dites artistiques, puisqu'il y a quand même de l'art dans l'architecture, évidemment, mais surtout dans l'architecture, l'invention vient jamais seulement d'un des aspects. Par exemple, la technique ou le bâtir. Ça vient aussi de la société, ça vient aussi des autres, ça vient du climat, ça vient des lieux. Dans chaque lieu, il y a toujours caché un petit génie du lieu. Le genius loci, les appelaient les latins. Il y a toujours un petit génie, il faut le retrouver. Alors il y a tellement d'éléments qui portent à l'invention, à l'architecture.
Vous qui parcourez toutes les salles d'Île-de-France avec votre orchestre, Enrique Mazzola, vous diriez aussi qu'en musique, il y a ce ping-pong permanent avec à la fois le public et ce génie des lieux.
Oui, j'ai pensé maintenant, quand j'ai écouté, que c'est vrai. Alors, vous savez que pour moi, faire un concert, c'est diriger l'orchestre qui est devant moi et, comme je peux dire, sentir la respiration du public derrière. Et à la Philharmonie aussi, à côté et devant moi. Mais pour faire un concert, il faut être nous, orchestre et public. Il n'y a rien à faire. L'orchestre sans le public, ce n'est pas un concert. Le public sans orchestre, c'est un concert. Il semble que je dis quelque chose de stupide, mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, c'est un peu, oui, une chose de société. C'est vraiment to feel, non ? Sentir la situation, le moment. Et je suis très, très, très... J'absorbe beaucoup... Et c'est vrai, hier soir était d'une façon, mardi soir à Zurich, c'est un public un petit peu plus difficile que le vendredi soir ou le samedi soir. Notre public à la Philharmonie de Paris, c'est un public incroyable, extrêmement généreux, présent et qui soutient l'orchestre avec force. Et aux États-Unis, c'est encore une chose encore différente.
Mais alors comment vous faites pour ne pas lui tourner le dos à ce public ? Vous regardez, vous avez des yeux derrière la tête ?
Non, mais souvent je parle au public. J'adore prendre le micro.
Expliquer.
Oui, d'expliquer, surtout quand la musique contemporaine, ou s'il y a quelque chose de spécial à dire. Je trouve que, voilà, il faut vraiment briser les barrières et respirer ensemble.
On vous souhaite plein de belles choses pour vos futurs projets, Enrique Mazzola, et je rappelle qu'on pourra vous trouver. Alors en tournée en Ile-de-France en ce moment pour clore ce festival Dolce Vita avec ce point d'or, que sera le 22 mai à la Philharmonie de Paris, et que bientôt dans les bacs arrivera ce disque, Gustav Mahler, Anton Bruckner, au label Nomad Music. Merci beaucoup.
Merci, ciao.